Radio-Télévision Suisse.
RTBF.
Radio-Canada.
France Inter.
RFI. Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérade.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la version estivale de la librairie francophone. Nous sommes à Hyères, dans le Var, en France aujourd'hui. Le voyage continue avec nos reportages et rencontres. Voici le sommaire de cette cinquième étape. Et dans un instant, nous irons dans un lieu historique avec l'écrivain hiérois Julien Sandrel, auteur de La Chambre des Merveilles, traduit dans le monde entier. Il sera question des chats avec la Belge Amélie Nothon et la Française Stéphanie Hocher, un drôle d'entretien croisé réalisé en public. Nous irons sur la plage de la Capte pour un club francophone exceptionnel sur le thème de la nature avec Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française, Yann Kefelec et Catherine Poulain. Vous entendrez aussi une rencontre exclusive entre le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qui habite ici dans le Var, et le chanteur malien Salif Keita. Et puis il y aura une petite surprise à la fin de l'émission.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérade.
Et on commence avec notre série Un auteur, une ville avec Julien Sandrel. Nous allons vous faire découvrir un lieu de cette ville de Hyères, situé à 15 km de Toulon, 50 de Saint-Tropez. Et nous sommes sur un point de vue, comme on dit. Bonjour Julien Sandrel.
Bonjour.
Un point de vue où l'on voit toute la ville de Hyères, toute l'étendue de la ville.
Exactement. Donc ici, nous sommes sur la place Saint-Paul. Donc on est au cœur même de la vieille ville d'Hyères. Et on a un panorama absolument magnifique sur la totalité de la ville. Donc on voit très très bien au loin les îles d'Or, donc le Levant, Port-Cros, Porquerolles. Et ensuite, proche de la mer, on a l'ensemble de la ville moderne. Et plus on monte en altitude, si on peut parler d'altitude parce que c'est une colline, c'est quand même pas une montagne, mais plus on monte en altitude, plus les bâtiments vieillissent et plus on remonte le temps en réalité. Donc là, on est au cœur de la ville médiévale.
Exact, avec la maison de Benoît de Groult, par exemple, qui est ici, là, juste à côté, à deux pas d'où nous sommes. Alors vous êtes un écrivain hiérois, Julien. Vous avez été révélé l'an passé avec votre roman La Chambre des Merveilles, paru chez Calman Levy, vendu dans 23 pays, en cours d'adaptation au cinéma, je crois.
Tout à fait, exactement.
Et dans ce livre, il y avait un soupçon du sud de la France, un soupçon de Hyères aussi.
Tout à fait, il y avait un soupçon de Hyères, et en plus, je vous ai emmené sur le lieu qui m'a inspiré ce soupçon d'Hyères. Puisque, en fait, je fais une petite allusion dans La Chambre des Merveilles à la soupe au pistou, qui est un plat typiquement provençal, une soupe d'été, qui est composée de légumes, de pâtes, et avec évidemment du pistou dedans. Et en fait, il se trouve que sur cette place Saint-Paul sur laquelle nous sommes, il y a eu pendant des années un rassemblement de communautés, un rassemblement de voisins, en réalité, tous les ans, où les gens partageaient une soupe au pistou. Et moi, j'ai participé, étant enfant, à certains de ces rassemblements, et traditionnellement, ensuite, c'était le 14 juillet, et ensuite on descendait les rues de la vieille ville d'Hyères jusqu'au parc hôtel qu'on voit en face de nous, où était tiré le feu d'artifice. Et c'est extrêmement bon, et c'est une des rares soupes qu'on mange en été, en fait.
Exactement, et c'est ici, à Hyères, que débute la Côte d'Azur. Il y a un grand débat sur ce sujet. Est-ce que ça commence là? Est-ce que ça commence à Saint-Tropez? D'autres disent que c'est à Bandol. Bref, Julien Sandrel, vous avez choisi un lieu, la collégiale Saint-Paul, d'où l'on voit effectivement toute la ville, qui est encore plus haut que l'endroit où nous sommes. On va y aller, on va gravir des marches, il y a beaucoup de vent, vous l'entendez derrière, c'est normal, c'est le Var, et dans le Var, il y a du vent. Et la plage de l'Almanar, d'ailleurs, est réputée pour les surfeurs, parce qu'il y a du vent.
Et la planche à voile.
Et la planche à voile, forcément, ça aide à canser avec du Mistral, par exemple. Voilà, on entre, allez-y.
En fait, la collection qu'il y a ici dans cette collégiale, elle est exceptionnelle par le nombre, puisqu'il y a plus de 400 ex-voto qui ont été finalement installés par les fidèles depuis les années 1600 en réalité, donc avec des ex-voto qui sont très vieux. Alors qu'on soit croyant ou pas, en fait, moi ce que je trouve, c'est que ces ex-voto sont extrêmement émouvants, parce qu'en fait, ils représentent finalement des scènes de la vie quotidienne, de la vie familiale, généralement des drames familiaux, et souvent des drames justement avec une issue heureuse.
Il y a une légende qui supposerait d'ailleurs que le trésor des Templiers a été enterré sous l'église. Et c'est fou, cette histoire.
Alors moi, j'ai entendu cette légende. Après, je crois que personne n'est véritablement allé vérifier. Donc, il faut faire confiance à cette légende.
On va demander à la dame. Il y a une dame à l'accueil qui est en train de hocher de la tête.
Bonjour madame.
Bonjour.
Alors c'est vrai cette légende ?
Tout à fait, tout à fait.
Alors pas sous nos pieds, non, sous la tour des Templiers.
Non. Ici à la collégiale Saint-Paul.
D'accord. Alors qu'est-ce que c'est le trésor des Templiers ?
C'est sûrement de l'argent.
On en parle, mais personne ne l'a jamais vu.
Non, exactement, ouais.
Il faudrait casser finalement la collégiale.
Non, non, non.
Bon, merci madame.
Merci. De rien.
Merci
pour cette précision.
Oui, une belle église en tout cas. Ouais. Vraiment, très très belle église. On va sortir de cette collégiale, Julien Sandrel. On va parler quand même de votre dernier roman où il est question de la quête du bonheur, mais aussi du courage de se renouveler, de réinventer sa vie, comme on dit.
Oui, donc mon dernier roman qui s'appelle « La vie qui m'attendait », c'est l'histoire d'une femme qui est médecin et hypochondriaque et qui
parti.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Et c'est pas mal.
Qui est un peu bloquée dans sa vie, elle ne sait pas exactement pourquoi. Et un jour, sa vie va basculer parce qu'il va y avoir une patiente de longue date qui va rentrer dans son cabinet, qui va lui dire « Je t'ai vu la semaine dernière à Marseille, tu sortais du cabinet d'un pneumologue, tu avais l'air très malade, avec moi ton secret est bien gardé, ne t'inquiète pas. » Et elle n'est jamais allée à Marseille et elle n'est pas malade. Et elle va se mettre en quête de cette personne qui lui ressemble tant et elle va tomber nez à nez avec une sœur jumelle dont elle n'avait absolument aucune idée de l'existence.
Et on ne dira pas la fin, on va aller voir on va aller voir le lavoir. Il y a un lavoir magnifique ici à Hyères, qui est juste au pied de la collégiale, justement. On va descendre quelques marches et on va découvrir ce lieu pour conclure cet échange autour d'un auteur, une ville avec Julien Sandrel. Bel escalier de bois. On va avoir le vertige quand même. Il est un peu étroit.
Ouais.
Et voilà le lavoir. Il est sublime ce lavoir. Il a été restauré. On est sous le toit, là. Il y a un toit évidemment qui le protège. Et cette fontaine qui coule avec plusieurs niveaux comme ça, c'est sublime.
Ouais, c'est magnifique. C'est un lavoir qui est absolument magnifique et qui était véritablement utilisé jusqu'aux années 50-60 en réalité. Hein. Je sais que mon arrière-grand-mère et ma grand-mère ont utilisé ce lavoir réalité.
Ah, c'est très joli parce qu'il y a un petit jardin avec des bancs publics sous une sorte de tonnelle. Et là, on entrevoit, Julien Sandrel, le tombolo. On est descendu un peu, donc la vue n'est pas la même.
Le double tombolo.
Le double tombolo. Alors, il faut savoir qu'il y a ce tombolo, ces tombolos à Hyères, qui sont très fragiles. C'est un cordon de sédiments qui permet de relier la presqu'île de Gien à Hyères. Saint-Pierre et Miquelon a lui aussi un tombolo qui relie ces îles. Il y en a trois dans le monde. Et le tombolo de Gien remonte à plusieurs millions d'années. La liaison entre Gien et le continent est double, avec deux plages détachées du rivage. Entre les deux, il y a de l'eau.
Tout à fait. C'est une formation géologique qui est assez unique, puisque en effet ce tombolo est double et il y a des marais salants au milieu qui ont été exploités pendant très très longtemps. Maintenant ils ne sont plus exploités en tant que tels, mais il y a une biodiversité au sein de ces marais salants qui est assez extraordinaire. Le deuxième tombolo n'était pas encore formé au moment où la cité d'Olbia, donc l'ancienne cité grecque d'Hyères, a été créée. Et donc justement, il y avait des pirates sur les îles de Porcro et du Levant qui étaient surveillés depuis Olbia par les Grecs.
Ah oui.
Et ensuite, ils passaient entre le tombolo en formation, en réalité, pour aller voir les pirates. Donc c'est assez
premier
récent,
passage,
finalement.
C'est assez récent, effectivement. Et il y a donc ces plages magnifiques, la plage de l'Almanar, paradis des surfeurs, et la plage de la Capte, juste en face, où nous irons tout à l'heure, avec Jean-Christophe Ruffin et Yann Kefelec, et aussi Catherine Poulain. Merci beaucoup, Julien Sandrel.
Merci beaucoup à vous.
Merci pour cette balade ici, sur les hauteurs de Hyères. Votre nouveau roman, La vie qui m'attendait, est paru chez Calman Lévy. Merci, Julien.
Merci, Emmanuel.
À suivre dans la librairie francophone estivale, une séquence réalisée en public à la Maison de la Radio, avec la Belge Amélie Nothomb et la Française Stéphanie Hocher. Elles racontent leur passion pour les chats. Avant cela, voici de la musique avec la Québécoise Lou Adriane Cassidy. Bel été à tous sur votre radio francophone.
Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi ? Alors c'est quoi ? Et si je n'ai pas d'amant, alors c'est quoi ? Alors c'est quoi ? Si je suis seule dans la vie, c'est quoi la vie ? C'est quoi la vie ? Si je perds tous mes amis, alors c'est quoi ? Alors c'est quoi ? Là, je sais pas, fais-toi en peur, ça va, si je fais rien de ma vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie, si je meurs et qu'on m'oublie, alors c'est quoi, alors c'est quoi, ouh, 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 ouh. en pleurait en m'accouchant, comme les enfants de mes enfants qui sont mort-nés en m'accouchant. Quand je suis seule, je suis pas seule, je fais comme s'il était avec moi. Je prends l'oreiller dans mes bras, t'es encore là, t'es encore là. Là, je sais pas, fais-toi en pas. Ça va,
Adriane Cassidy avec un extrait de Ça va, ça va sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI. On arrive sur la place Massillon, ici à Hyères, avec la rue Massillon dans laquelle on trouve des commerces et des spécialités provençales. Le temps de nous diriger vers la plage de la Capte, on va parler des chats avec Amélie Nothomb et Stéphanie Hocher et aussi le public de Radio France. Et on revient ici à Hyères pour un club francophone très particulier sur la plage.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Quérade.
Merci d'être avec nous au studio 105 de la Maison de la Radio avec Amélie Nothomb qui invite aujourd'hui Stéphanie Hocher. C'est le club francophone d'Amélie. Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour Emmanuel Quérade.
Alors vous avez invité Stéphanie Hocher. Pourquoi Stéphanie Hocher, dites-nous.
Stéphanie Hocher est un grand écrivain français. Elle est pour moi la personnalisation de Paris. Quand j'ai débarqué à Paris il y a 25 ans, je ne connaissais absolument pas les Français et j'étais effarée parce que vous n'imaginez pas le fossé qui sépare les Belges des Français. Et les Parisiens, c'est encore plus difficile. Donc moi, je me disais, il faut que j'entre en contact avec les indigènes. Donc comment faire? Donc j'ai cherché une indigène et j'en ai trouvé une.
Et qui a publié donc récemment Éloge voluptueux du chat aux éditions Philippe Ray. Voilà, livre que je montre au public. On va parler des chats donc, si vous voulez bien. Les chats, Stéphanie Hocher, bonjour d'abord. Merci
bonjour.
D'être avec nous.
Merci beaucoup.
Effectivement, le chat, animal domestique préféré, compagnon des écrivains, animal mystique aussi, sacré parfois. C'est compliqué de se faire ennemi avec un chat?
De se faire ennemi, oui. Ou de se faire aimer?
Bah justement, répondez comme vous voulez.
Je pense que le chat vous met un petit peu à égalité, c'est-à-dire que vous devez le séduire, il doit vous séduire, et en ça se passe assez différemment des autres animaux, c'est ça qui est intéressant pour moi.
Il y a une préface de Gilles Lapouge qui dit dans la préface que le chat est un animal distingué, mais c'est aussi un goinfre. Vous avez eu, vous, un chat qui est tombé dans un sac de croquettes quand il était petit?
Absolument.
C'est ce que vous racontez.
C'est la version Obélix du chat. Donc, lui était tombé dans le sac de croquettes et il est resté amoureux des croquettes toute
oui.
sa vie.
Et c'était,
et,
ouais.
C'est-à-dire qu'il était, quasi boulimique. Hein, en fait, c'était un chat très calme, très zen, comme beaucoup de chats, en fait, qui peuvent avoir cette espèce de figure un peu de petit Bouddha. Et il y avait une forte connivence entre lui et moi. C'était vraiment un chat que je ne pourrais pas remplacer aujourd'hui. Mais bon, si je ratais un petit peu l'heure du repas, il sautait sur la table et poussait les objets de la pâte et voilà, il faisait tomber tous les objets. Donc, c'était particulier.
Amélie Nothomb.
Je crois que je suis la personne qui te connaît le mieux au monde. Ça fait 21 ans que je te connais. Et je me sens tout à fait en mesure d'affirmer que Stéphanie est un chat.
Oui. Je vais expliquer pourquoi d'ailleurs, parce qu'il y a une histoire oui. incroyable
oui, vraiment,
qui est dans le livre.
Mais je vous laisse l'expliquer.
Alors. Allez-y, allez-y.
Bon, Stéphanie avait et a toujours des parents. Mais c'était l'un et l'autre travaillaient. Et quand Stéphanie rentrait de l'école, les parents n'étaient pas là, mais il y avait les chats. Et qu'à cela ne tienne, Stéphanie prenait son goûter avec les chats, allait jouer dans le jardin avec les chats, montait dans les arbres avec les chats. Et je crois que c'est pour ça que Stéphanie a adopté absolument toutes les manières du chat. Stéphanie est en effet, comment dirais-je, très peu soucieuse du qu'en dira-t-on.
Oui.
Très égoïste.
Ah oui. Non, pas égoïste, individualiste.
Individualiste, d'accord. Ouais. C'est-à-dire, en même temps, peu lui importe de déplaire. Stéphanie est une force qui va. Elle dit ce qu'elle a à dire, elle fait ce qu'elle a à faire. Si vous aimez, tant mieux. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave. Et pour moi, c'est vraiment ça, les chats. Et c'est une chose qui me fascine parce que c'est exactement le contraire de tout ce qu'on m'a appris. Moi, on m'a pris les valeurs, je ne sais pas exactement de quel animal, mais de l'anti-chat, va-t-on dire. Et quand j'ai rencontré Stéphanie, j'ai d'abord cru que tous les Français étaient comme toi. J'ai découvert que ce n'était pas tout à fait vrai. Stéphanie, c'est un peu le chat français, vous voyez. Donc, c'est exactement ça.
À la fois, je suis contente d'avoir ma biographe, mais je dois quand même incarner tout ça, ce qui n'est pas toujours évident, quoi.
Sacré caractère, en tout cas, hein, Stéphanie.
Bon, je ne sais pas. Après, bah, vous savez, c'est une artiste, elle a son interprétation. Hein,
bien sûr, évidemment. Alors, l'histoire incroyable, vous ne l'avez pas racontée, Amélie, parce qu'il y en a une qui remonte à l'enfance, à la petite enfance. Il faut savoir que Stéphanie avait un chat quand elle était bébé, enfin les parents avaient un chat. Et lorsque vous étiez bébé, il y avait un chat qui dormait dans votre berceau.
Eh oui.
Alors ça peut paraître très dangereux parce que le chat est souvent jaloux.
Mais en fait, c'était pas volontaire, mais mes parents avaient un chat et ils l'ont retrouvé dans mon berceau quand je dormais.
Mais un vrai, pas une peluche.
En fait,
quoi.
Ils ont été... Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je dis ça, les gens sont un peu effrayés. Oh là là, il aurait pu l'étouffer, mais pas du tout, en fait. Mais je crois que c'est le début de ma mythologie, ça. C'est le début de mon
incarnation.
C'est
comme ça que vous avez pris le caractère du chat.
Ouais, en tout cas, j'ai été très proche d'eux, c'est certain.
Vous avez des histoires de chats, Amélie Nothon ?
Oh, des histoires beaucoup moins belles. J'avais en Belgique une grand-mère, j'ai beaucoup parlé de ma grand-mère, mais c'est parce que je suis très traumatisée. Ma grand-mère était en Belgique une méchanceté célèbre. Et ma grand-mère avait l'exécration des chats. Et je suis épouvantée par ce que je vais dire, mais c'est juste la vérité. Elle était serial killer de chats.
Ah oui.
Tout un quartier de Bruxelles, pendant 50 années, a vu tous ses chats disparaître à cause de ma grand-mère. Ma grand-mère attrapait les chats, les faisait mourir dans d'atroces souffrances, et puis se débarrassait du cadavre. Donc, je l'ai vu faire. Ma grand-mère était très méchante et en même temps très jalouse des chats. Elle tuait les chats par jalousie. Et tout ceci m'a fait aimer les chats profondément. Ma grand-mère me détestait, pourtant je pense très honnêtement.
Ah, en plus ?
Oh mon Dieu, je pense que je suis la personne qu'elle a le plus détestée de sa vie. Elle avait déjà pour ça un motif, elle disait « Tu n'es qu'un faucheton comme ton père ». Donc déjà, je ressemblais à mon père, donc c'était un très mauvais argument.
Ça a bien commencé pour vous, Amélie, dans la vie. Hein,
vous savez, le simple fait d'avoir une famille
est
presque
tout.
Toujours un obstacle, hein, n'est-ce pas?
Et ça complique tout.
Moi, je suis toujours sidérée quand je vois des gens qui vont à des réunions de famille, l'air content. Moi, quand je vais à une réunion de famille, je sais que ça va être le moment le plus traumatisant de ma vie.
Le ronronnement des chats, il y a tout un article dans votre livre sur le ronronnement, qui n'est pas vraiment ce qu'on croit d'ailleurs. Hein. Ils font ça pour se rassurer, non pas pour montrer qu'ils sont bien.
Ouais, c'est très mystérieux, on ne sait pas si c'est... En fait, ce n'est pas forcément lié au plaisir et au bien-être.
Amélie se sert une petite coupe de champagne.
Et j'espérais le faire discrètement, mais avec vous, Emmanuel, ça ne sera pas du tout.
Avec vous, Emmanuel. On est en public, il y a la bouteille sur la table, Amélie.
Moi,
je suis obligée de commenter.
Je tablais sur le fait que personne ne me voyait.
Alors tiens, le ronronnement, tiens, ça va coller avec le bruit des bulles du champagne.
Oui, on a découvert que c'était pas forcément lié au bien-être de l'animal, même si ça peut l'être évidemment, mais ça peut être aussi signe de souffrance.
Ouais.
Ce sont des sons tellement bas que ça détend énormément donc le chat et y compris les propriétaires. Enfin, propriétaire est un grand mot, mais il y a beaucoup de livres qui proposent une guérison par le ronronnement, la ronron-thérapie, etc. Quoi. Il y a même des disques, j'ai découvert des disques qui étaient des enregistrements de ronronnement.
Et si vous n'avez pas de chat, achetez le disque.
Voilà, c'est ça.
Puis au moins, ce sera sur commande. Hein. Il suffit d'appuyer sur lecture et c'est bon. Merci Amélie.
Merci infiniment.
Vous êtes magnifique.
Merci mille fois.
Amélie Nothon, mesdames et messieurs. Et Stéphanie Hochet, merci beaucoup.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Queyrade.
Retour ailleurs sur la route de la Capte en direction de la presqu'île de Gien, avec devant nous les salins de Hyères et de grands espaces sauvages entourés par la Méditerranée. À gauche, la plage de la Capte et de la Bergerie, et à droite, c'est la plage de l'Almanar. De nombreuses espèces d'oiseaux vivent ici, c'est un espace préservé, très réputé et apprécié des amoureux de la mer et de la nature. Dans un instant, nous serons installés justement les pieds dans l'eau avec notre club francophone composé de Jean-Christophe Ruffin, Yann Kefelec et Catherine Poulain. Avant cela, voici l'artiste belge Roméo Elvis avec un titre de circonstance. Bon été à tous avec la librairie francophone estivale.
Inévitable et vital. c'est toujours au PS que j'arrive pas à gagner. Aujourd'hui c'est la même, mais mon esprit est en paix. Depuis que je suis avec toi, avec toi. Depuis que je suis avec toi, avec toi. Je regarde plus jamais l'heure, sauf pour savoir quand t'arrives. T'es la seule chose dont j'ai peur, la première place dans mon cœur. Mais je suis trop bien avec toi, avec toi. Mais je suis trop bien avec toi, avec toi. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco, le soleil renaît dans ma vie. Y'a pas de quiproquo, le soleil renaît dans ma vie. Et oh comme ça, regarde tout droit. Une pour elle, une pour lui, une pour moi. Et oh comme ça, regarde tout droit. Une pour elle, une pour lui, une pour moi. Et
l'amour est un idéal, mais j'suis un idéaliste. J'peux pas cacher tout le mal par le bien que je réalise. Mais je nous vois dans le temps, plus avec toi qu'en solo. J'ai compris que c'était bon le jour où tu m'as fait la bise. Depuis que je suis avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Et depuis que je suis avec toi, avec toi, avec toi, 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 toi.
Le soleil renaît dans ma vie. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco, le soleil renaît dans ma vie. Y'a pas de quiproquo, le soleil renaît dans ma vie. Et oh comme ça, regarde tout droit. Une pour elle, une pour lui, une pour moi. Et oh comme ça, regarde tout droit.
C'était Romeo Elvis avec Soleil, extrait de son premier album.
Radio-Télévision Suisse, RTBF,
Radio-Canada, France Inter,
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérade.
Voilà, nous sommes arrivés à la Capte, la plage de la Capte, ici à Hyères, dans le Var, en France. Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour Emmanuel.
Je suis très heureux de faire venir un montagnard au bord de la mer. Vous êtes un grand montagnard, Jean-Christophe.
Ben, je ne sais pas si je suis un grand montagnard, mais c'est vrai que ma polarité est plus vers les sommets. Mais enfin, vous savez, tout aboutit ici quand même, hein, parce que l'érosion, ben, toutes les roches qui sont là-haut, ben, un jour ou l'autre, elles finissent là.
Exactement.
Comme du sable.
Avec l'eau, on a les pieds dans l'eau. On ne l'entend pas parce que c'est très très calme, la mer est très calme aujourd'hui. C'est assez rare, mais c'est très lisse, c'est un paysage absolument magique que nous avons devant nous. On va parler donc de la nature avec Catherine Poulain, mais aussi avec Yann Kefele qui est avec nous. Bonjour Yann.
Bonjour Emmanuel Kehrad.
Comment allez-vous ?
Très bien, comment ne pas dire que nous avons sous les yeux la mer Méditerranée dans son plus beau bleu, son plus beau vert, sa plus tranquille manière de vivre. Et c'est de toute beauté, on voit l'île de Porquerolles au loin.
Les îles d'Or qui sont juste en face.
Les îles d'Or, tout à fait.
Porquerolles et Porquerolles.
Paradisiaque.
Espace protégé. L'an passé, nous étions ensemble sur les remparts de Saint-Malo en Bretagne. Et nous avions fait la promesse de nous retrouver au bord de la Méditerranée, Yann. Vous vous souvenez de ça ?
Merci Emmanuel, parce que c'est vous qui avez tenu cette promesse. Et je suis très heureux de vous retrouver effectivement devant ce spectacle merveilleux.
Ravi de vous avoir tous les trois. Bonjour Catherine Poulain.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez tous les trois participé au Festival du Livre de Hyères qui se tient chaque année depuis 4 ans au cœur de la ville. Nous allons donc parler de la nature. Vous avez carte blanche tous les trois pour nous dire à quel point vous êtes attachés à la nature. Catherine Poulain, la nature, ça a été toute l'histoire de votre vie avec ce roman dans lequel vous racontiez votre expérience, 10 ans de pêche en Alaska, au milieu des marins, au milieu des hommes.
Oui, ce premier roman, Je raconte quelques mois, je raconte un apprentissage de la vie de pêcheur, oui. Mais la nature, dans mon premier roman comme dans mon second, la nature est toujours là, très présente, mais mes êtres humains sont un peu comme des petits animaux, comme nous sommes, qui tentons parfois de nous... de l'atteindre, d'arriver à cette unité, mais c'est difficile.
Avec cette grande respiration au bord de la mer, Catherine Poulain. Grand succès aussi avec Grand Marin, paru en 2016. 250 000 exemplaires vendus. Il est sorti en poche d'ailleurs chez Point. Et la mer est très présente car une femme décide comme ça d'aller pêcher en Alaska et de partager la vie des marins. Et pour elle, la vie en mer, c'est dur. C'est très dur parfois la vie en mer. Yann va confirmer dans un instant.
Oui, c'est très dur, mais c'est un... C'est une unité des hommes, c'est une unité dans le travail, c'est une unité dans le bruit de la vague qui vous lamine et qui jour après jour vous rince et vous lave.
Oui, c'est ça, ça rince et ça lave, vous avez raison. Oui. Yann Kefelec, la mer lave.
J'écoute avec beaucoup d'intérêt Catherine Poulain, qui parle très bien de la nature, mais quand on lit son livre, ce qui est un des plus beaux livres sur la mer et sur la nature qu'on puisse lire, là, on est vraiment transporté dans le cœur du sujet, c'est-à-dire la relation de l'homme avec la nature. On ne sait toujours pas d'ailleurs de quoi est faite cette relation entre l'homme et la nature. On s'aperçoit que le pacte est en train de prendre l'eau, si j'ose dire, et l'on cherche à redéfinir notre lien avec la nature qui permettra de sauver les deux, de sauver l'homme et la nature, de sauver l'homme dans ce qu'il a de naturel et d'animal dans sa relation avec cette merveille qu'est la vie.
Jean-Christophe Ruffin, le grand marcheur que vous êtes, vous aimez marcher au bord de la mer ?
Oui, j'aime marcher partout, mais j'aime surtout grimper. Alors évidemment, au bord de la mer, c'est plus compliqué.
Oui.
Voilà. Non, mais je pense que la nature a quand même un lien avec la notion de limite. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Il y a les gens qui vont dans la nature pour dépasser les limites. Et puis il y a ceux qui vont dans la nature pour les retrouver. C'est-à-dire pour savoir qu'ils ne sont pas tout puissants, que l'être humain ne peut pas tout, et que la nature vous rappelle finalement à votre condition.
Oui, Yann.
Oui, je voudrais poser une question à Jean-Christophe. Est-ce que tu n'as pas l'impression que, bon, ça a été comme ça au cours de l'histoire, de toute manière, mais est-ce que là, en ce moment, l'homme n'arrive pas en buter contre quelque chose, justement? Est-ce que, à force de chercher sa limite, là, est-ce qu'on n'est pas au bord de quelque chose qui ressemblerait à un gouffre?
Oui, alors il y a la question collective, c'est-à-dire que collectivement on est au bord d'un gouffre écologique et collectif, mais individuellement ça reste, l'expérience de la nature individuellement reste quand même une expérience de retour à l'humilité, parce que la nature n'est pas forcément plus puissante que la civilisation aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a un peu perdu la partie devant la puissance de la civilisation humaine, mais devant l'individu, elle reste quand même la plus forte.
On va marcher un peu au bord de la mer, sur la plage de la Capte, ici à Hyères. C'est un club francophone exceptionnel qu'on vous propose aujourd'hui, avec Jean-Christophe Ruffin, Yann Kefelec, Catherine Poulain. Jean-Christophe se jette qui m'arrose d'eau. Qu'est-ce qu'il est joueur.
Un pistolet en plastique, mort en plastique.
Voilà, on a une pinède qui est juste derrière aussi. Alors c'est très intéressant comme lieu parce qu'on est vraiment au milieu de la nature. Ce sont des espaces sauvages assez préservés. Au final, Yann Kefelec, ces endroits-là dans le sud de la France.
Ça fait plaisir, en effet. On n'arrête pas de dire qu'on tue la nature, qu'on bétonne absolument partout, qu'on met du plastique partout. Mais ici, nous avons l'exemple du contraire. Dans le sud de la France, dont il semblerait pourtant qu'il soit assez saccagé dans beaucoup d'endroits. Mais là, on a des canisses, on a la pinède, on a des êtres humains sur une bande de sable entre la mer et puis cette nature végétale. On a l'impression que tout se passe bien entre l'homme et son environnement.
Catherine Poulain, c'est régénérant la mer, ça nous met face à notre condition aussi.
C'est régénérant, oui. Je ne suis pas vraiment une contemplative. J'ai besoin d'affronter les choses, de les sentir. Oui, voir la mer me donne un sentiment d'apaisement, quelque chose de total. Et j'aime essayer de faire partie de... Ouais. Sachant que j'y arriverai jamais, mais au moins tenter de...
Oui, c'est ça, on ne peut pas la maîtriser finalement. Non, c'est immaîtrisable. C'est un élément auquel on doit s'adapter.
Oui. Je disais dans mon livre, dans Le Grand Marin, un vétéran du Vietnam qui dit « La nature est la meilleure infirmière, nature is the best nurse ». Et c'est, comme disait Jean-Christophe Ruffin, c'est vrai, on ne pourra jamais la dominer, mais elle nous ramène justement à ce qu'on est. Et dans l'action, en pleine nature, je trouve qu'on arrive parfois à sortir de soi-même,
de respirer.
Et d'atteindre cette chose essentielle, mais on ne sait pas ce que c'est.
Vous êtes toujours dans cette grande respiration, c'est étonnant Catherine. Vous avez besoin de respirer, de prendre un bol d'air.
Et il y a un grand souffle, je voudrais trouver ce grand souffle qui est là. Mais
qui est aussi dans la montagne, Jean-Christophe Ruffin. Vous prenez des bols d'air, c'est pour ça que vous êtes souvent à la montagne, c'est pour, comme dit Catherine, prendre votre souffle, reprendre votre souffle.
le souffle et puis le souffle sous l'angle spirituel, c'est-à-dire une forme d'inspiration. La montagne, mais comme la mer d'ailleurs, hein, sont des sortes de pages blanches qui donc sont très propices à l'imaginaire et très favorables pour l'écrivain.
Yann Kefelec, c'est une page blanche la mer, vous êtes d'accord avec ça?
Non seulement je suis d'accord, mais je pense l'avoir écrit quelque part. Mais la page était bleue!
Mais
la
je voulais citer justement.
Du plagiat!
Non, pas du tout, je pense qu'on est, on est tous d'accord.
On demandait des droits.
On est tous d'accord. Pourquoi pas? Mais moi je parlais d'une page bleue, donc voilà, aucun droit versé par Jean-Christophe. C'est vrai que l'innocence du monde incarnée par la mer, dans ce qu'elle a de plus violent et de plus doux, les deux ensemble, c'est une manière de nous remettre à notre place et de nous amener vers notre propre définition. Constamment, on pense savoir qui on est. On se dit, ben voilà, maintenant, à l'âge que j'ai, je sais qui je suis. J'ai compris un peu comment ça se passait. C'est pas vrai. Dès qu'on embarque sur un bateau, dès qu'on est confronté aux éléments, dès que ça se déchaîne un petit peu, soi-même, on se déchaîne sur un plan qu'on n'avait absolument pas prévu et on se remet en question. C'est remise en question permanente par la nature. Mais on ne peut pas ne pas dire, lorsqu'on est face à la mer en ce moment, qu'on ne souffre pas quand on pense effectivement à ce qui se passe avec l'océan, avec les dégâts comme ça que la civilisation, dont parlait Jean-Christophe, que la civilisation a infligé à la mer et dont on ne sait toujours pas comment s'en débarrasser.
Allez, on va aller du côté de la marina, car il y a une petite marina là, juste à côté d'ici, avec tous les pins qui sont autour de nous, cette mer bleue turquoise aussi, le sable fin ici ailleurs. On vous a demandé de réfléchir à un titre qui illustre pour vous l'été, qui fait référence à l'été, une chanson, Jean-Christophe Ruffin.
Bon, non, mais c'est pas tellement à mon honneur, parce que ça sera considéré comme une chanson très populaire, mais c'est Nino Ferrer, On dirait le Sud, voilà.
Ah, d'accord. Bon, bah, écoute un extrait, tiens.
On dirait le Sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement. Et toujours en été.
On dirait le sud de Nino Ferrer. Oui, c'est ça, c'est populaire et c'est ensoleillé.
Ben oui, mais c'était formidable. Moi, j'avais beaucoup de. Je ne connaissais pas, mais beaucoup de sympathie pour cet homme qui faisait une musique. Pour tout le monde.
Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien.
Dans votre dernier roman, Yann Kefelec, Naissance d'un Goncourt, vous racontez les débuts d'un écrivain. Un écrivain qui aura plus tard le prix Goncourt. Qu'est-ce que ça change dans la vie d'avoir le prix Goncourt, Yann Kefelec, vous qui l'avez eu du coup?
Ça change exactement comme une tempête change la vie du marin. Vous assumez une tempête, vous prenez une tempête de bonne chance en pleine figure, il faut la traverser, il faut la vivre. C'est pas un rêve, hein, c'est vraiment quelque chose de vrai, il faut l'assumer tous les jours de sa vie, y compris aujourd'hui en vous répondant en ce moment.
Jean-Christophe Ruffin, je vous avais posé cette question dans la librairie francophone version télé, je me souviens, si ça avait changé votre vie, le Goncourt.
Oui, bah, de toute façon, le Goncourt non seulement change la vie, mais enfin, je trouve améliore la vie, parce que enfin, quand on est un écrivain qui ne vient pas du monde littéraire, qui n'a pas fait d'études littéraires, c'est une reconnaissance extraordinaire. Et moi, j'ai toujours considéré que c'était une bénédiction. Voilà, maintenant, simplement, après, il faut assurer les conséquences, parce que ça a des conséquences assez lourdes, il y en a parlé. C'est-à-dire que ça perturbe votre vie, mais ça la perturbe dans le bon sens.
Allez, Catherine Poulain, on termine avec cette tradition de choisir un plat qui symbolise l'été et une plage quelque part dans le monde. C'est valable pour vous aussi, messieurs. Jean-Christophe, moins, parce que la plage, plus les montagnes, mais...
Ouais.
plage au soleil comme là, comme les personnes qui sont à côté de nous, là, c'est pas possible.
Non, mais la plage au bord du lac de Passy, au pied du Mont Blanc, c'est pas mal.
Ah oui, c'est vrai, c'est pas mal. Catherine Poulain, donc, une plage quelque part dans le monde.
Une plage quelque part dans le monde, la plage de Kauai.
La plage de
Kauai.
C'est où ça?
C'est à Hawaï.
Hawaï? Ouais. Ah oui, vous êtes allé là-bas?
Oui, je suis allé là-bas.
Ah là, magnifique. Yann Kefelec.
La question, c'est...
Une plage quelque part dans le monde qui vous attire.
La plage de Penful. Penful, Finistère Nord, la Béryl d'Eute, c'est une des plages les plus belles, les mieux préservées que je connaisse. La mer, il y a un bleu ahurissant. En plus, c'est une des plages de mon enfance, donc dans ce lieu du monde que représente ma mémoire, comme ça, qui contient cette plage d'exception.
Parfait. Et on mange quoi sur cette plage ?
On mange du Queen Yaman, on mange des huîtres, on mange du dormeur, on mange du crabe. Moi, lorsque je pense à bonne nourriture maritime, je pense au crabe, parce que le crabe, c'est une nourriture qui se mérite par effraction. On y va au maillet, on y va au marteau, on lui casse les pinces, et à l'intérieur.
Vous êtes sauvage, c'est cruel.
Ouais, mais il y a une espèce de relation extrêmement forte, très puissante avec le crabe, avec le crustacé. Et c'est vraiment...
Il y a une résistance, quoi.
Il y a une résistance. Ouais. Et à l'intérieur...
En même temps, on est plus fort qu'eux, hein, quoi qu'il arrive, les pauvres.
Ah, on est plus fort qu'eux. C'est bien là le drame, d'ailleurs. C'est qu'on est plus fort qu'eux.
Jean-Christophe Ruffin, un plat.
Un plat ?
Oui.
J'hésite, parce que vous parlez de la mer, mais moi, vous parliez du sud aussi. Alors, si c'est le sud, je parlerai de l'injera éthiopienne, qui est le plat national là-bas, qui est une crêpe de teff, une céréale très particulière, toute petite, qui ressemble à du millet, mais encore plus petit, du millet, et qui se mange avec des sauces. Voilà, c'est le plat éthiopien. Voilà, et pour moi, c'est vraiment le plat du sud, très épicé. Si vous en mangez tous les jours, il vous arrivera des bricoles.
Pourquoi ? Oui, très fort.
Très épicé, ouais.
Merci Jean-Christophe Ruffin, merci Yann Kefelec, merci Catherine Poulain.
Merci.
Merci beaucoup pour cette rencontre inédite sur la plage de la Capte hier, donc. Merci à vous. Dans un instant, une rencontre inédite entre Boris Cyrulnik, qui vit à La Seyne-sur-Mer, juste à côté d'ici, et l'artiste malien Salif Keita. Avant cela, on écoute le chanteur marocain Ahmed Soultan, qui était venu dans la librairie francophone interpréter un titre acoustique. Ahmed Soultan.
جيه وحدوي نكيدر في نوي اتساوى دوك عيونوي نقيمي والريغة تابع ميدن مدن هنسوق هن كل شي وريقي وينو كي يهمني راسي قداو بعدوي بنادم يدوي خليهم يقولو قولي وما تهنيت وتحابوني هبيل ولي باغي يدوي خليه وهمه انا وراسي بخير انا وراسي بخير انا وراسي بخير انا وراسي بخير
Toujours pour toi.
Irtab al-tawal Ursali kamalien Ghozaf tout khtilas Marakis fawa gharas Hajiye wahdoye Nkidi fino نسوق عن كل شي وريقي وينو كي يهمني راسي غدا وبعدو بنادم يدوي خليهم يقولو واليوم تهني وتحابوني هبيل ولي باغي يدوي خليه واو همو انا وراسي بخير انا وراسي بخير انا وراسي بخير انا وراسي بخير نو نو
C'était Ahmed Soultan avec Anna Orassi sur votre radio francophone, titre interprété cette saison pour la librairie en public devant 200 lycéens. Voici à présent une rencontre entre le grand Salif Keita, star mondiale de la musique africaine, et le neuropsychiatre Boris Cyrulnik.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Kérad.
Salif Keita, je vous présente Boris Cyrulnik, qui est juste à côté de vous.
Oh.
Ils se serrent la main tous les deux. Grand neuropsychiatre français, auteur de nombreux ouvrages et de la fameuse théorie de la résilience. Dans son dernier livre, il explique comment l'art, la créativité et l'écriture peuvent aider à surmonter ces souffrances. C'est ce qui s'est passé avec la musique dans votre vie, Salif Keita. Vous avez même dit récemment, si la musique n'avait pas été là, je crois que je me serais suicidé.
C'est exact. C'est vraiment ça. Parce que je suis sûr et certain que si j'étais pas devenu musicien, je sais pas, mais je ne serais plus là. Parce que ça m'a donné une raison de vivre après. Parce que j'ai eu, bon, ça c'est des choses qui arrivent peut-être à beaucoup de gens, hein. La souffrance après le bonheur.
Ouais.
Et je souhaite à tout le monde ça, ça fait du bien.
Mais tout le monde connaît votre musique, Salif Keita. Tout le monde connaît ça, par exemple. Ce titre qui fait danser tout le monde,
ouais.
Qui a fait danser le monde entier, qui a été appris même par un DJ célèbre. Mais pourtant, peu savent comment ça a été dur pour vous. On va rappeler votre parcours. Le 25 août prochain, vous aurez 70 ans. Vous êtes né au Mali dans un village au bord du fleuve Niger. Vous naissez albinos. Et là-bas, c'est un signe de malheur. Alors, on vous met à l'écart. Votre propre père ne vous adressera pas la parole pendant longtemps. Ce que vous faites, Salif Keita, c'est que vous vous réfugiez dans les études et vous vous passionnez pour la musique. Vous apprenez le chant en écoutant les griots. C'est ça qui révèle en vous la foi en la vie.
Oui, parce qu'on est dans la musique là-bas quand même, la musique traditionnelle. On est dedans, on grandit dedans et vraiment c'est inspirant. Hein. Ça quand même, c'est très riche.
Et là aussi, votre choix de devenir artiste n'est pas bien accepté dans votre famille.
Oui, tout à fait.
Parce que les griots, c'est une tradition et on ne peut pas devenir chanteur comme ça à leur place.
Non, ça c'est difficile.
Alors vous partez vivre seul dans les rues de Bamako. Et c'est une succession de rencontres comme ça dans des hôtels-restaurants de la ville. À l'époque, il y a beaucoup de groupes dans les hôtels-restaurants de Bamako qui vont vous emmener ailleurs, aux États-Unis et puis en France. Et là, vous découvrez le métissage culturel, le métissage de la musique.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ce que je ne savais pas du tout, c'est le mécanisme de la musique. On n'était pas vraiment habitué à ça. Quand on est venu ici, on a rencontré beaucoup de gens qui se sont mis à notre service, qui nous ont appris beaucoup de choses. Beaucoup,
qui vous ont aidé, ouais, qui vous ont porté.
Vraiment.
Boris Cyrulnik, dans les premières pages de votre livre, vous dites qu'une chanson peut, par exemple, métamorphoser la réalité et la rendre supportable.
Oui, bien sûr. Ce qu'on ne peut pas dire avec des mots, on peut le dire avec des mots écrits, ou on peut le dire avec des poésies, ou on peut le dire avec des chansons. C'est une forme de poésie, la chanson.
Ouais.
C'est-à-dire que, parce que c'est métamorphosé, et en Afrique, au Rwanda, il était impoli de parler de ses malheurs dans la journée, mais le soir, on recommandait de faire une chanson ou une scène de théâtre pour expliquer son malheur. Dès l'instant où le malheur est modifié par la chanson ou par le théâtre, on peut le partager, on peut le comprendre.
Il y a des chansons, Salif Keita, qui ont rendu la vie plus supportable pour vous ? Des chansons que vous avez écrites ?
Je crois, mais généralement, ceux qui écoutent la musique et qui comprennent, c'est eux qui peuvent parler à ma place ici. Mais je sais que je fais tout pour ne pas être inutile dans un texte. Vraiment, les plus fatigués d'une guerre, je crois que c'est les femmes et les enfants.
Ouais, oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Quand on a vécu des moments durs, Boris Cyrulnik, une enfance douloureuse, suite à un abandon, au rejet ou à la perte d'un parent, vous expliquez, Boris, cette nécessité de poétiser le réel, de devenir aussi un rêveur.
Oui, parce que le réel est insupportable. Si on se contente de vivre dans le réel, il n'y a que du malheur, de la guerre, de la pauvreté. Donc si on doit s'adapter au réel, mais on doit le métamorphoser. On doit là-dedans, dans la tête, avoir un refuge. Ce refuge peut être une musique, peut être une poésie. Charlotte Delbo, à Auschwitz, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle écrivait des poésies. C'est-à-dire que quand on est trop malheureux, on peut se sauver de la réalité insupportable en créant une autre réalité, c'est la réalité des mots ou la réalité des chansons.
Et vous explorez le cas de Jean Genet, enfant de l'assistance publique qui revient souvent dans l'ouvrage et qui, je cite, se sent tellement bien dans ses rêves qu'il finit par acquérir un dégoût du réel. C'est le risque aussi, ça.
Alors, Jean Genet avait peur du monde, il avait peur de la vie, il avait peur des autres, et il se cachait dans les livres. C'est pour ça qu'il était bon élève, parce qu'il se réfugiait dans les livres pour éviter les relations. Donc, il a acquis le bonheur des mots, il a été très bon élève, mais il ne savait pas vivre, il ne savait pas traverser la rue, il ne savait pas établir une relation affective normale. C'est-à-dire qu'il s'est sauvé par la littérature, mais il ne s'est pas sauvé par les relations.
Oui, vous dites d'ailleurs que la vie sans les autres, c'est un désert. Cela génère anxiété et angoisse. Salif Keita, jusqu'à l'âge de 17 ans, vous dites avoir pleuré. Mm-hmm. Et puis vous avez réfléchi. La cause, c'était ça, c'était le manque des autres.
Oui, parce que je crois que j'étais trop seul. J'étais vraiment seul. J'étais vraiment seul. J'étais très seul. La vie a commencé vite à me parler. Et ce qui était ma solitude, je n'avais pas de solution en fait. Mm-hmm. C'était ma question, c'était qu'est-ce que j'allais devenir. C'est ça. C'est ça, c'est vraiment ça. Parce que je ne voyais pas dessus, quoi. Je ne vois rien à l'horizon.
Quand ça se fait, Boris, que selon vous, ce sont les traumatisés qui sont les plus à même de créer des poèmes, des chansons, des romans ou des essais? C'est ce que vous écrivez, hein, c'est pas moi qui le dis. Ils sont meilleurs créatifs que ceux qui ont eu une enfance et une vie heureuse?
Imaginez que vous ayez eu une enfance sans problème. Qu'est-ce que vous auriez à dire? Vous pourriez pas, vous auriez eu à dire que de la routine. Dès l'instant où là, il n'y a pas le choix, il y a un trauma, donc ou bien on reste prisonnier du trauma, ou bien on s'évade par la poésie.
Vous écrivez, puisque nous avons la chance de connaître le malheur, nous sommes contraints de chercher ceux qui nous apaisent, nous donnant ainsi le bonheur de les aimer. Sans souffrance, nous n'aurions besoin de personne. Sans manque, nous n'aurions rien à créer. Sans rêve, nous serions inertes. Notre existence ne serait qu'un vide, un non-sens, pire que la douleur.
Qu'est-ce que c'est bien?
Qu'est-ce que c'est bien écrit? C'est la clé de votre livre, ça, Boris. Vous auriez pu vous contenter juste de ce passage-là.
Non, mais je suis encore d'accord.
Oui, vous êtes d'accord, Salif Keita?
Oui, vraiment.
Merci beaucoup, Boris Cyrulnik. C'était vraiment un grand plaisir. Je suis ravi, très heureux quand je vous vois et quand je vous entends parler dans cette émission. C'est toujours très émouvant pour moi parce que vous êtes un fidèle depuis 12 ans. La nuit, j'écrirai des soleils. Votre ouvrage est paru chez Odile Jacob. Merci, Salif Keita.
Merci.
Merci beaucoup. Votre dernier album, c'est l'un des plus beaux albums africains que j'ai écouté ces 10 dernières années.
Merci beaucoup.
Vraiment, c'est sublime. Ça s'appelle Un autre blanc. Il est disponible partout dans le monde. On y croise des prestigieuses collaborations avec Cheikh Tidiane Seck, Paco Seri, Angélique Kidjo ou encore Alpha Blondie.
Merci.
Merci, Salif. Voilà, retour à hier pour la fin de cette émission au bout de la presqu'île de Gien. On a emprunté le tombolo dont on vous parlait tout à l'heure en début d'émission et on est avec un auteur et cinéaste venu en voisin, un niçois. Bonjour Didier Van Kovelaert.
Bonjour Emmanuel.
On s'était vu l'année dernière, on avait fait une émission spéciale à Nice avec vous et avec Costa Gavras. Et c'est vrai que vous êtes de la région en fait, quelque part.
Oui, en même temps, vu de Nice, hier c'est un peu le bout du monde, mais c'est un bout du monde merveilleux que je découvre là. Et dès qu'on a fini l'émission, je vais plonger dans l'eau.
Oui, parce qu'on est vraiment au bord de l'eau. Oui. Et on est dans un endroit absolument magnifique. Décrivez, tiens, en tant qu'auteur, qu'est-ce que vous diriez du paysage qui est face à nous?
D'abord, on est en plein coucher de soleil. Il n'y a personne à part nous et un goéland qui essaie désespérément de nous faire croire que c'est un très très bon pêcheur. Oui. Parce qu'il fait, il ne rapporte rien, oui. Hein, mais il s'élève de 2 mètres, il plonge la tête la première et il ressort, il a l'air réjoui alors qu'il n'a rien attrapé. Ce sentiment d'appartenir à un lieu parce qu'on l'aime tout à coup.
Alors on a des îles face à nous, hein, pour être complet, un immense rocher qui est au milieu de la mer, et puis de la végétation. Vous adorez les plantes, vous en avez
oui,
même fait
odeurs,
un livre récemment.
Ben oui, les émotions cachées des plantes,
et oui.
Tout ce qui est déclenché par la communication, le besoin de communiquer qui est quelque chose d'essentiel chez les plantes.
C'est vrai que quand on voit tous ces arbres, c'est caractéristique d'ailleurs de la Méditerranée, les arbres qui plongent vers la mer, qui s'inclinent vers la mer, c'est drôle ça, on a l'impression qu'ils veulent être en communion avec l'eau.
Alors c'est une question de vent, c'est-à-dire qu'ils ils se protègent.
Et, oui.
Et puis ce qui est fabuleux, c'est les racines qui vont chercher la terre, qui parfois traversent des mètres et des mètres de rochers, de manière à aller trouver le coin de terre. Vous savez, il y a cette histoire extraordinaire du palmier des Andes, qui est le seul arbre qui marche. C'est-à-dire, quand il est dans une mauvaise exposition, il a des racines extérieures qu'il va planter plus loin, il fait mourir ses racines à l'arrière, et il se tire en avant. Et on voit,
il se déplace,
en image accélérée,
à côté, ouais.
Voilà. Donc ça, c'est, s'il y avait besoin d'une preuve de l'intelligence végétale, elle est là, c'est-à-dire l'objectif à atteindre en fonction de l'analyse du problème et du terrain sur lequel on est.
Bon, on va vous laisser avec votre ami Goéland là, qui revient. Merci beaucoup Didier Van Kovelaert.
Merci, je vous donnerai de ces nouvelles.
Merci pour ce clin d'œil amical ici ailleurs. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous à la rédaction Jean-Philippe Véret de France Inter ici ailleurs avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Un grand merci à toute l'équipe du Festival du Livre de Hier. À la semaine prochaine dans une autre ville francophone pour la suite de notre grand voyage culturel. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.